BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce début du mois de juin, eh bien, on va parler de l'agritech française. On va mettre en avant les atouts de cette agriculture qui se digitalise pour mieux réussir, pour mieux s'adapter et pour mieux se développer. On parlera donc notamment de Nayo Technologies, des robots qui effectuent entre autres des tâches sans réelle valeur ajoutée comme le désherbage. L'entreprise a de grandes ambitions, vous le verrez, en France comme à l'étranger. Autre tendance lourde de l'agritech, la collecte de données et l'analyse. Ça, c'est le cœur d'activité, entre autres, de Genesis, qui analyse les sols, d'Inarix, qui analyse les cultures, et de Javelot, qui analyse les stocks de grains. Et puis notre invité fil rouge pour cette émission spéciale est Jérôme Leroy. Lui-même dirige la start-up Winat qui développe des capteurs et des stations météo pour les agriculteurs. Jérôme Leroy est également président de la Ferme Digitale, association qui regroupe la plupart des agritech françaises et qui organise dans quelques jours la 7e édition de LFD. Labourage et pâturage sont, vous le savez, les deux mamelles de la France, en tout cas selon cette célèbre phrase signée Sully. Elle date de 1638, à une époque où l'agriculture était clairement le poumon économique et social de la France. Quatre siècles plus tard, eh bien, notre pays reste certes la première puissance agricole européenne, mais le secteur ne représente plus que 3% environ du PIB tricolore. Le monde a changé, les objectifs de nos agriculteurs restent bien sûr économiques, mais aussi de plus en plus environnementaux. Alors la technologie est une des clés pour répondre à ces défis parfois contradictoires. Et en ce domaine, eh bien, on va le voir, la France n'a pas du tout à rougir de ses agritech. Et on va commencer d'ailleurs ce tour d'horizon avec Inarix, qui a réalisé une levée de fonds d'un peu plus de 3 millions d'euros en début d'année. Inarix qui propose des solutions d'analyse de la qualité des cultures via un système de reconnaissance d'images. Alors pour l'instant, cela concerne le blé et l'orge, bientôt le maïs et le soja. Et Inarix, déjà présent en France, va rapidement s'attaquer à d'autres marchés, dont les États-Unis. Pierre Chappelle, qui est le président fondateur d'Inarix, était venu nous en parler dans Good Morning Business.
C'est de l'intelligence artificielle. On transforme les smartphones en laboratoire de poche en prenant juste une simple photo et ça vous donne la qualité des céréales, de vos matières premières.
Et qu'est-ce qu'on cherche, par exemple, comme information quand on photographie un grain de blé ?
Eh bien, par exemple, on va chercher un taux de protéines ou un taux d'impureté.
C'est avec ça. Une photo, vous voyez ça ?
Tout à fait, oui.
Pour l'instant, donc, c'est le blé et l'orge. Alors, est-ce que vous allez aller sur d'autres cultures ?
Oui, tout à fait. C'est l'un des objectifs de cette levée de fonds, c'est d'ancrer notre avance technologique, puisqu'on est en avance technologique. La plupart de nos produits sont des premières mondiales. Ouais. Et c'est d'aller sur le cacao, le café, le soja ou le maïs, par exemple.
Après, vous êtes capable de dire ce qu'il faut faire une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on sait si son blé va bien. Il y a un conseil ?
Oui, alors il n'y a pas encore de conseil. Ça, c'est le métier de l'agriculteur, du collecteur ou du transformateur. Nous, on va leur fournir les informations qui leur permettent de prendre des décisions rapides. Parce que l'enjeu, c'est d'être très rapide. La récolte se déroule en quelques semaines. Vous devez arbitrer très rapidement entre des camions de différentes qualités. Donc l'enjeu, c'est la rapidité dans ce domaine. Aujourd'hui, concrètement, nos clients sont exclusivement en France. Très rapidement, on va être à l'échelle européenne et ailleurs.
Et avec le levée de fonds, l'idée, c'est quand même d'aller aux États-Unis, non ?
Tout à fait, oui. Notamment sur ces matières premières que j'ai citées, le soja et le maïs, qui sont très produites là-bas, donc c'est de fournir des outils pour le marché nord-américain.
Il n'y a pas de concurrents encore là-bas dans ce domaine ?
Alors nous, on a différents concurrents, néanmoins des gens qui font ça sur smartphone, qu'on me le fait aujourd'hui, on est les seuls au monde.
C'est un modèle d'abonnement, c'est une application qu'on paye une fois et ensuite on y a accès tout le temps, comment ça fonctionne ?
C'est un modèle d'abonnement, effectivement, donc c'est des forfaits annuels.
Par grain de blé ?
Par grain de blé, alors...
Très malin, ça.
On n'aurait pas besoin de lever de fonds si on avait été par grain de blé. Non, c'est un modèle de SaaS traditionnel, récurrent. Aujourd'hui, nos clients sont principalement de gros collecteurs de céréales. Donc, on s'adresse pour l'instant aux industriels et pas encore aux agriculteurs.
Voilà donc pour Inarix. Bonjour, Jérôme Leroy.
Bonjour.
Vous m'entendez, voilà. Merci d'être l'invité fil rouge de cette émission spéciale consacrée à nos agritech. Dans quelques jours, vous allez organiser le LFD, le rendez-vous annuel organisé donc par la Ferme Digitale. On va en reparler plus en détail dans quelques instants. Mais tout d'abord, rappelez-nous justement ce qu'est la Ferme Digitale, dont vous êtes le président, et quelles en sont les principales missions.
Alors, enchanté. La Ferme Digitale, c'est une association qui a été créée il y a environ 8 ans maintenant, qui a été créée par 5 entrepreneurs, des 35 salariés. Aujourd'hui, c'est 4500 salariés, plus de 126 entreprises. La mission initiale de l'entreprise était de valoriser, de cette association, était de valoriser l'innovation, le numérique, au service d'une agriculture durable, performante et citoyenne. Et donc, c'est l'entrepreneuriat privés, innovants, au service des challenges et des enjeux de l'agriculture de demain, environnementale, sociale, économique et démographique.
Le nombre de membres, donc vous l'avez cité, 126 membres. Votre objectif, je crois, il est assez ambitieux pour les prochains mois. Objectif plus de 150 sur l'année 2023.
Voilà exactement le mode de fonctionnement depuis le début, c'est qu'on fait environ 3 à 4 promotions par an. On sélectionne des dossiers d'entreprises qui veulent rejoindre l'aventure, qui veulent rejoindre l'association pour bénéficier de la visibilité, d'échanges entre pairs. Et durant ces 3 commissions, on sélectionne environ une quinzaine de membres qu'on intègre dans l'association sous forme de promotion. Voilà.
Et les principaux critères, c'est quoi ? C'est vraiment de l'innovation tech pure ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres critères pour faire partie du club ?
Oui, exactement, vous avez raison. Vous faites très bien de poser la question. Alors, ce qui est très important pour nous, il y a 6 critères pour être membre de la ferme digitale. Bien évidemment, il faut un parrain, il faut aussi un développement de l'entreprise qui commence à être conséquent. Il faut aussi avoir une certaine volonté de partager de la valeur avec des salariés. Il faut avoir une politique d'impact, une politique RSE. Et évidemment, non pas être uniquement dans le digital ou dans l'innovation, mais à partir du moment où la volonté, le projet et la mission de l'entreprise tournent autour de l'amélioration de la vie de l'agriculteur, de l'amélioration de la qualité de l'alimentation. Et c'est sur tous ces sujets que la France n'a pas du tout à rougir en termes de membres, en termes d'acteurs, puisque sur environ 450 startups innovantes, la ferme digitale a pour ambition effectivement d'en réunir minimum la moitié.
Donc il y a de nombreuses startups, la vôtre Winat, on en parlera dans quelques instants. Il y en a aussi qui ont fait un sacré bout de chemin et que l'on suit nous sur BFM Business depuis longtemps. Je pense à Insect, dont Antoine Hubert est le vice-président de la ferme digitale. Il y a de beaux parcours qui se sont mis en place depuis les 7 ans de la création de l'association.
Oui, vous faites bien de le mentionner. Effectivement, Antoine, président d'Insect, Paolin d'Agriconomie, Florian, tous un petit peu à l'origine de l'association. Et effectivement, dans nos membres, on a 2 générations d'entreprises. Donc, on a une première génération d'entreprises créée entre 2010 et 2020, où là, on va être sur des sujets de plateformes, de données, de satellites, de plateformes de financement comme Mimosa. Et ces entreprises, aujourd'hui, sont des entreprises qui ont 40, 50, 100, 200, 300 collaborateurs qui commencent à s'industrialiser et à s'internationaliser. Et puis, la deuxième génération parmi nos membres d'entreprises nées à partir de 2020, qui sont donc la génération 2030, où là, on va avoir des nouveaux secteurs, les fermes verticales, les biotechnologies, les biostimulants, les plateformes de formation en ligne des agriculteurs, les aspects carbone, la biodiversité. Et toutes ces jeunes entreprises sont un petit peu plus petites, 5, 10, 15, 20 salariés, et ont toutes aussi leur chemin devant eux. Et la beauté de la ferme digitale et notre force, c'est de pouvoir regrouper ces 2 générations d'entrepreneurs pour leur permettre de collaborer, de se donner des tuyaux et ainsi de ne pas répéter les erreurs du passé qui, pour des entreprises un petit peu plus anciennes, ont pu nous faire perdre parfois 1, 2 ou 3 ans de commercialisation.
Et on va justement montrer quelques exemples de ces startups, de ces jeunes entreprises dont vous parliez et qui font partie de la ferme digitale. On va commencer avec Genesis. Il n'est pas question de rock, mais bel et bien, elle a encore d'analyse dans le domaine agricole. Genesis, qui s'est d'abord appelée Greenback, propose des solutions pour analyser, pour noter la qualité et la santé des sols cultivés. Objectif, faire prendre conscience des effets de l'agriculture sur la terre. Et le fondateur de Genesis, c'est Quentin Sagnier, qui a opéré depuis 5 ans un très joli parcours et reconversion professionnelle après la belle aventure des enceintes de Vialet. Quentin Sagnier était récemment l'invité de Guillaume Paul dans Good Evening Business.
Vous notez, vous auditez l'état des sols agricoles, c'est ça, monsieur Sagnier,
ouais.
Finalement.
Hein. Et en fait, on fait ça pour une raison claire, c'est que 60% des approvisionnements des entreprises viennent de l'agriculture et de la forêt.
Ouais.
Or, ces entreprises qui ont en général une vision claire de l'impact de leurs usines, leur consommation d'eau, d'énergie, etc., sur tous leurs approvisionnements agricoles, qui représentent 70 à 90% de leurs approvisionnements, on parlait de l'industrie du luxe à l'instant, c'est aussi le cas, ils ont beaucoup d'approvisionnements agricoles, et bien en fait, sur toute cette partie agricole, ils sont aveugles de leur impact. Or, l'activité agricole, c'est au monde l'activité qui a le plus d'impact sur l'environnement.
Ouais.
Ce qui est normal, puisqu'on se nourrit 3 fois par jour, qu'on consomme du sol.
Bien sûr, bien
on consomme
sûr.
Beaucoup de produits. Et donc, sur toute cette partie-là, il fallait donner un outil. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont un devoir de vigilance qui est inscrit dans la loi. Et en fait, la réglementation européenne, elle va leur imposer en 2025 un reporting sur leur impact environnemental et social sur la totalité de leurs approvisionnements.
Voire des sanctions financières pour
ça. Mais ça peut être des sanctions considérables.
C'est-à-dire
ben, ça peut être de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires pour des allégations environnementales non vérifiées.
Comment est-ce que tout ça va arriver? Alors d'abord jusqu'aux agriculteurs, puis ensuite jusqu'aux industriels finalement. Il va y avoir une appli, c'est ça? Vous allez
Il y a une application, déjà un service, on a déjà des clients, on est déjà...
Combien de clients vous avez?
Une quinzaine de clients, on travaille en Europe, jusqu'en Roumanie, en Écosse, en Argentine, au Brésil, enfin voilà, on se développe internationalement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer trois dimensions majeures, l'état sanitaire, la pollution du sol, les métaux lourds, etc. On va mesurer l'état biologique, le fonctionnement du sol, et on va mesurer le carbone du sol. Le carbone du sol, c'est l'humus, c'est la nourriture de la biodiversité, mais c'est aussi un élément déterminant de la structure, de la capacité à garder de l'eau, etc., qui a tant d'impact pour notre environnement. Et nos clients, ce sont des grands groupes qui s'abonnent en fait au suivi de leur approvisionnement, comme ils s'abonnent au suivi de leur état financier.
L'entreprise, elle est basée à Lisor, c'est dans le département de l'Eure, c'est ça? Vous êtes combien aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on est 25. Alors on est présent aussi à Paris, parce que tout le monde ne peut pas habiter là. On a aussi une équipe, un labo près d'Angers. Et puis après, on intervient dans le monde entier avec des partenaires.
Et puis, autre agritech, membre de la ferme digitale, Javelot, créé en 2018 et dont les solutions surveillent, alors non pas les sols comme Genesis, mais les grains quand ils sont stockés après la récolte. Là encore, les enjeux sont cruciaux pour les agriculteurs et pour la filière agroalimentaire. Vindicien Delcourt, le cofondateur de Javelot, était venu en parler à Sandra Gandouin dans 90 minutes business.
Le domaine dans lequel on travaille chez Javelot, c'est le secteur de la pré-récolte de la filière céréale. Après la récolte, le grain est stocké dans des silos, vous pouvez voir un peu partout en France et en Europe, et le grain a tendance à chauffer, c'est naturel. Donc, qui dit réchauffement dit pourriture et développement d'insectes, et donc une dégradation du stock. Chez Javelot, à l'aide de capteurs et de sondes connectées, on surveille la température, la présence d'insectes, et on gère tout ce qui est ventilation. À la clé des économies, évidemment, d'insecticides. Oui. Aujourd'hui, c'est du 0% d'insecticides après récolte chez nos clients. Et puis, évidemment, économie d'énergie, 20 à 40%. Très important.
Ça, on va y revenir sur cette année, évidemment.
Absolument.
Les capteurs, concrètement, vous les placez à l'intérieur des silos, c'est ça?
Donc, à l'origine, on avait créé, il y a 5 ans, une sonde connectée de 2 mètres de long qui ressemblait, évidemment, à Javelot, ce qui a donné le nom à la boîte. Et à connecter, elle envoyait directement les infos sur un smartphone, une tablette, y compris des alertes à nos utilisateurs. Et ensuite, on a fait évoluer cette technologie. Aujourd'hui, on est en capacité de surveiller tout type de stockage à plat, vertical. Et également, quand les silos sont déjà équipés, on va chercher la donnée. Et on l'envoie sur notre application, puisqu'aujourd'hui, on vend une application.
Vous estimez faire combien d'économies aux agriculteurs avec votre procédé?
Alors, les économies d'énergie, c'est entre 20 à 40% selon le type de stockage et la façon dont il était utilisé avant. Et en insecticide, un grain qui est correctement refroidi, il n'y a plus d'insecticide de stockage.
Vous avez combien de clients et puis qui sont-ils?
Alors, nos clients aujourd'hui, évidemment, sont les agriculteurs, mais qui stockent à la ferme pour les aider à gérer leur stock au mieux. Mais nos clients sont surtout les organismes stockeurs, donc coopératives et négoces. Ce sont des très très gros clients qui stockent des centaines de millions de tonnes. En France, principalement aujourd'hui, on surveille 10% du stockage français, 8 millions de tonnes. Évidemment, à date, on va doubler, voire tripler ça dès cette année. Et on est aussi implanté en Roumanie et puis on attaque Pologne et Allemagne dès cette année.
Et j'ajoute que Javelot a effectué une levée de fonds de 10 millions d'euros. C'était en septembre dernier. Alors on va, Jérôme Leroy, parler de votre entreprise Winat, qui a elle aussi d'ailleurs réalisé des levées de fonds. C'était, je crois, 2 millions en 2019, 1 million en 2021. Mais avant d'en parler plus en détail avec vous, Zidane Azouzi nous a rejoint pour nous présenter le cœur d'activité de Winat. Winat, Zidane, a développé un système de capteurs et de stations météo pour équiper les parcelles agricoles afin d'aider les agriculteurs justement à prendre les bonnes décisions.
Alors Winat a été créé en 2014 par Jérôme Leroy, qui sera votre invité dans quelques instants. Aujourd'hui, en quelques chiffres, la société emploie 45 collaborateurs et a déjà installé 12 000 capteurs agrométéo en France et en Europe, des capteurs distribués chez plus de 160 partenaires agricoles. Winat est reconnu sur le marché européen grâce à la performance de ses capteurs. L'objectif, aider les agriculteurs en leur communiquant les conditions météorologiques.
Et ces capteurs, Zidane, permettent d'avoir une idée de la météo du ciel, un peu comme fait Météo France, ou est-ce que ça va bien au-delà ?
Oui, mais pas seulement Jérôme, car les agriculteurs pourront aussi savoir ce qui se passe sous leurs pieds. Pour ceux qui nous regardent à la télé, on le voit avec les images qui défilent juste derrière moi. Ça se fait toujours à l'aide de ces capteurs qui peuvent descendre jusqu'à 60, 70, voire même 90 cm en fonction de la profondeur de la racine. L'agriculteur aura alors directement le résultat qui s'affichera sur son smartphone. Vous l'aurez compris, Jérôme, une méthode qui va bien au-delà de la simple prévision météo.
Et cette méthode, quel en est l'objectif revendiqué donc pour en développant cette stratégie ?
La devise est très simple, travailler mieux pour travailler moins. Les agriculteurs effectuent en moyenne un peu plus de 53 heures par semaine, c'est plus que n'importe quelle autre catégorie socio-professionnelle. Gagner du temps, prendre les bonnes décisions et optimiser son organisation sur les chantiers, voilà autant de points positifs qui ont déjà séduit plus de 18 000 utilisateurs à l'heure actuelle.
Merci Zidane Azouzi, Jérôme Leroy. Donc on vous retrouve, voilà, 18 000 utilisateurs. C'est un chiffre à date. Les ambitions, j'imagine, sont déjà chiffrées, sont déjà encore plus ambitieuses de votre côté.
Oui, ben merci beaucoup pour ce rappel et cette belle présentation de l'entreprise que j'ai créée. Effectivement, notre croissance est toujours très forte, hein, tirée par les problématiques environnementales, sociétales, les attentes des consommateurs, mais aussi la volonté des agriculteurs d'optimiser encore plus leurs pratiques, d'optimiser leur temps, de gagner en efficacité, de tester des nouveaux modes de culture plus compatibles avec les épisodes de sécheresse, avec les épisodes de gel. Et donc notre ambition, effectivement, après l'Espagne, l'Allemagne, notamment, et la France, qui sont nos trois pays les plus importants, notre ambition est de continuer à s'étendre sur des nouveaux pays, notamment en Europe, dans les 3-4 prochaines années.
Et avec à la clé de nouvelles embauches, Zidane, rappelez 45 personnes à l'heure actuelle, c'est quoi vos objectifs d'embauche si le plan de développement se déroule normalement ?
Oui, bah l'entreprise et son potentiel, c'est plusieurs centaines de collaborateurs. Donc à terme, effectivement, dans les mois qui viennent, on continue à embaucher une dizaine de personnes environ par an. L'année dernière, on a aussi fusionné et acheté une entreprise qui était spécialiste des données météo au kilomètre carré près en France, extrêmement compatible avec les données météo en local fournies par des capteurs que l'on conçoit. Et notre ambition est aussi donc de pouvoir collaborer avec l'entièreté du marché, que ce soit des clients, des acteurs du logiciel agricole, pour pouvoir continuer à développer nos solutions adaptées à la sécheresse et notamment aux gros épisodes de gel qui touchent le vignoble et les maraîchers.
Je reviens à votre casquette de président de la ferme digitale, pas de France digitale. Parlez-nous du programme French Agritech qui a été lancé en 2021, qui fait partie du plan global d'investissement France 2030. Quel est dans ce cadre-là le rôle et les missions de France digitale ?
Oui, alors la ferme digitale, comme vous l'avez rappelé, le côté très très agriculture, très très alimentation, et donc depuis 2021, on collabore avec le gouvernement qui nous a confié notamment l'écriture d'un rapport qu'on a appelé le rapport French Agritech, au cours duquel on a fait 5 grandes recommandations au gouvernement. On va dire aux acteurs publics, notamment sur le sujet des talents, sur le sujet du financement, comment permettre aux investisseurs de comprendre encore mieux comment fonctionne le cycle agricole, et peut-être pas attendre un retour sur investissement en 5 ans, mais plutôt en 8 ans ou en 10 ans, et comment donc accompagner ces sociétés qui vont avoir un impact très très fort, qui ont été très résilients aussi pendant la période de Covid, notamment. Et donc notre ambition, nos recommandations tournent autour des talents, du financement, du transfert de technologie aussi, de la recherche. Comment faire pour que des startups qui ont commencé à collaborer avec des centres de recherche de l'INRAE puissent être incubées, être accélérées se faire financer et pour permettre que de nouvelles molécules soient issues de la recherche française, mais aussi de l'entrepreneuriat français, pour conserver des emplois en France et faire de la France le berceau, hein, comme on le veut, on en appelle de tous nos voeux, le berceau de l'agriculture, de l'agritech mondiale, ou de sentinelle de l'alimentation durable de 2030 ou 2040. Et effectivement, le issu de ce rapport a été créé une catégorie agricole dans le programme French Tech
ouais.
Qui va d'ailleurs continuer dans les années qui viennent. Et les acteurs de l'agriculture vont représenter environ 15 à 20% des élus et des entreprises qui sont choisies pour faire face aux défis sociétaux que nous partageons tous ensemble.
On vous retrouve dans quelques instants pour parler du LFD donc, qui aura lieu le 13 juin dans quelques jours. Mais on va tout d'abord poursuivre cette sélection des agritechs français les plus performantes avec une autre pépite de la ferme digitale. C'est Naïo Technologies que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business au fil notamment de ses levées de fonds. Plus de 40 millions d'euros au total. Naïo, ce sont des robots qui déchargent les agriculteurs de tâches souvent très ingrates et sans grande valeur ajoutée comme le désherbage et des tâches pour lesquelles en plus, il est de plus en plus difficile de trouver de la main-d'œuvre. On est là clairement au cœur de ce que l'intelligence artificielle et la robotique peuvent avoir de bénéfique dans un secteur comme l'agriculture. Gaëtan Sévrac, le directeur général de Naïo Technologies, était venu en parler dans Good Morning Business.
Alors la principale, c'est vraiment le désherbage mécanique, qui est la tâche la plus pénible et la plus répétitive qu'on puisse trouver dans l'agriculture, tout type de culture confondue. Mais après, nos robots peuvent aussi avoir différents types d'outils, donc on peut faire de la tente, on peut faire du semis, on peut assister pour transporter des charges, pour faire de la plantation. Donc c'est après, ça peut devenir un outil polyvalent au service justement des différents besoins des agriculteurs et des agricultrices. C'est un robot, un type de culture. D'accord. Donc on a par exemple un petit robot pour les vignes en Champagne qui sont étroites, on a un grand robot pour les vignes plus classique, on a un petit robot pour le maraîchage diversifié, un grand robot pour les producteurs de légumes industrie. Et après, sur le même robot, on peut changer différents outils.
Et technologiquement, alors, faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle. En fait, c'est des caméras qui vont, par exemple, analyser, faire la différence entre ça, c'est une feuille de salade, ça, c'est une mauvaise herbe, donc je récupère la mauvaise herbe. C'est comme ça que ça fonctionne.
Exactement. On va dire, il y a différents types de capteurs. Ça va du GPS que tout le monde connaît jusqu'à la caméra, des capteurs laser aussi, des capteurs de contact, tout bête pour la sécurité, mais c'est important. Et donc, le robot, grâce à ça, peut à la fois naviguer dans un champ et éviter d'écraser des humains, bien sûr, et aussi éviter de couper des salades, parce qu'on est là pour les désherber, pas pour les couper. Donc, ça fait partie justement de cette intelligence artificielle et de tout ce que le robot est capable de faire pour réaliser sa tâche en toute sécurité.
Vous travaillez avec la photo aussi, on reçoit de plus en plus de boîtes qui bossent avec la photo. Hier, c'était une autre agritech qu'on avait, avec une photo, ils pouvaient savoir si le blé était bon ou pas. Il y a aussi ce système-là chez vous ou pas ?
Il y a aussi des capteurs, oui, même si nous, aujourd'hui, encore une fois, en parlant juste, pas technologiquement, mais de valeur ajoutée pour l'agriculteur, on se focalise sur des tâches plutôt au sol, des actions. Et la collecte de données, c'est des choses qu'on a déjà testées, soit tout seul, soit en partenariat justement avec des sociétés comme celles que vous avez reçu, parce qu'on peut intégrer leurs capteurs sur nos machines pour donner aux agriculteurs encore plus de valeur ajoutée pour chaque passage du robot. Donc aujourd'hui, ce qu'on commercialise, c'est plutôt désherbage, semis. Et demain, ce qu'on peut débloquer comme valeur ajoutée, c'est collecte de données, outils d'aide à la décision.
Et donc sur le prix, c'est
compliqué. Et le prix, donc, ordre de grandeur, ça va commencer dans les 30 000 euros avec le plus petit, et ça peut monter jusqu'à 200 000 euros, voire un peu plus avec les options pour le plus gros, pour la vigne.
Ah ouais, donc on peut les louer, j'imagine, parce que
on peut les louer. On a même en Californie, notre entité en Californie propose de la prestation de service. On a certains de nos clients qui proposent eux-mêmes en France ou en Europe de la prestation de service. C'est pour ça qu'il faut vraiment le voir. C'est un investissement, bien sûr. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est le retour sur investissement, encore une fois, et ça va assez vite avec le désherbage.
Voilà donc pour les très performants robots de Naïo Technologies qui sont déjà utilisés en Europe, au Canada. Et la start-up veut maintenant se développer, c'était évoqué à l'instant, dans plusieurs États américains. On va terminer cette émission spéciale sur l'agritech, toujours avec vous, Jérôme Leroy, en visio, dont vous êtes le président de la ferme digitale. On en vient donc à ce LFD 2023 qui se tiendra dans quelques jours, le mardi 13 juin à Paris. Parlez-nous de cette 7e édition, de cet événement organisé donc par la ferme digitale.
Oui, merci beaucoup. Alors, c'est notre 7e événement, c'est la 7e édition du LFD, qui est un événement qu'on a lancé dès 2017 avec beaucoup d'ambition, qui était de réunir tout un écosystème d'acteurs de l'agriculture, de l'alimentation, qui avaient envie de participer à projeter cette industrie dans l'innovation, dans les enjeux de demain, que ce soit le digital, que ce soit des nouvelles molécules d'alternatives aux produits phytosanitaires. Et donc cet événement, il a lieu effectivement le 13 juin à Grand Contrôle, en plein centre de Paris. On y retrouve plus de 200 investisseurs, plus de 140 startups d'environ 30 pays. On va y retrouver aussi des agriculteurs, on va y retrouver des tables rondes, des workshops. Les tables rondes, la thématique de des tables rondes sont l'émergence de nouveaux modèles de financement, l'émergence de nouvelles générations d'agriculteurs, l'émergence de nouvelles formes aussi d'agriculture, de nouveaux formats agricoles, mais aussi de nouvelles attentes des consommateurs, c'est-à-dire potentiellement une évolution de notre alimentation. Et donc, pendant toute cette journée, on va pouvoir rencontrer des innovateurs, des grands comptes. On a aussi beaucoup de CEO ou de managing directors de très grandes entreprises françaises, internationales de l'agroalimentaire, qui vont échanger avec des agriculteurs, des innovateurs. Et on va pouvoir donc aussi mettre en avant cette génération d'entrepreneurs français dans l'agriculture et de l'alimentation qui commence à percer au niveau européen, au niveau mondial.
Et d'où le nom de l'édition 2023, la thématique c'est émergence.
Exactement, la thématique est l'émergence, puisqu'effectivement vous avez bien certainement suivi suite aux événements géopolitiques, suite à l'épisode du Covid, le monde agricole et le monde alimentaire était redevenu un peu sous la lumière, on va dire, des investisseurs et donc aussi des citoyens, que s'alimenter, on s'alimente 3 fois par jour. Donc d'où provient mon alimentation, d'où l'importance de la traçabilité, de la qualité. Et c'est donc toutes ces valeurs-là qui sont en train, des modèles sur lesquels sont en train d'émerger de nombreuses sociétés innovantes qui font aussi de plus en plus attrayantes pour les investisseurs. L'année dernière, l'ensemble des membres de la firme digitale ont levé environ 220 millions d'euros. Depuis le premier trimestre 2023, c'est déjà 180 millions d'euros levés par des membres de la firme digitale, avec plus d'1,4 milliard d'euros levés depuis la création de la firme digitale uniquement par nos membres. Donc vous voyez que l'importance et l'attractivité, on va dire, de nos entreprises au service d'une agriculture et d'une alimentation durable n'est qu'au tout début d'une nouvelle industrie. Et il ne faut pas que les acteurs français ratent ce virage, ni l'agriculture française, ni ses acteurs innovants, pour éviter que nos technologies et nos fermes françaises ne soient uniquement utilisatrices de solutions provenant de pays dans lesquels nos outils de recherche auraient été sous-évalués, alors que cette nouvelle génération n'a pas du tout à rougir, puisque la France est le troisième pays créateur d'entreprises innovantes en agriculture et en alimentation par nombre d'habitants.
Eh bien voilà, c'est sur ce chiffre clé, ce message que l'on va terminer cette émission. Donc on le rappelle, LFD dans quelques jours, le 13 juin donc à Paris. Merci beaucoup Jérôme Leroy d'avoir été l'invité de cette émission spéciale qui a mis à l'honneur l'agritech française. On se retrouve nous pour un tout prochain numéro de La France a tout pour réussir la semaine prochaine. On parlera notamment de l'agriculture, du champagne, avec une annonce de la maison Nicolas Feuillatte. La France a tout pour réussir, vous la retrouvez le vendredi à 14h30, le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. Très bon week-end. Une très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.